De l'autre côté de la musique, une émission proposée et présentée par Michel Giardella. Une autre manière d'aborder la musique classique. Bonjour Michel.
Bonjour.
Toujours des contextes qui encadrent toutes ces œuvres classiques que vous nous proposez. C'est toujours aussi l'objet de retrouver certes de la musique, mais aussi d'autres articulations qui font référence à une certaine époque. Alors aujourd'hui, de quoi va-t-on parler ?
Eh bien, on va parler de Wagner. De Wagner, le révolutionnaire, puisque Wagner a fait partie des gens qui se sont soulevés en 1849 à Dresde. Et il est arrivé pour donner un concert à Paris avec la réputation de révolutionnaire. Et donc, c'était assez mal vu du temps de Napoléon III. Hein.
Nous nous retrouvons à cette époque à la moitié du 19e siècle, on peut dire, du passé 1850-1860.
Voilà, 1860, à Paris règne le Napoléon III, et Wagner arrive. Bon, il y a parmi toute l'intelligentsia, il y a deux personnes qui en ressortent, Baudelaire et puis Émile Zola, tous les deux, pourtant de courants tout à fait différents, ont été de grands admirateurs de Wagner et ont beaucoup écrit sur Wagner, et ils ont été très touchés par cette musique et ils se sont portés contre un peu les canons de l'époque qui n'appréciaient pas du tout Wagner.
Hein. Voilà, une arrivée plutôt fragile de Wagner à Paris notamment.
Voilà, donc en 1861, quand il a donné Tannhauser, il avait d'abord donné l'ouverture à des concerts, puis après il a monté l'opéra. Ça a été quelque chose de très difficile, parce que l'histoire de Tannhauser, c'est l'histoire d'un chevalier du Moyen-Âge qui part en voyage et puis tout d'un coup qui tombe sur les charmes de Vénus. C'était un peu débridé, un peu sexuel. Et puis après, il sera racheté, bien sûr, par la mort d'Élisabeth. Et en même temps, il mélange une deuxième légende. C'est un concours, un tournoi de chanteurs dans un château. Et donc, ces deux histoires se mêlent. Et disons, la tradition de l'Opéra de Paris voulait qu'on mette un ballet. Mettre un ballet là au milieu, et il fallait qu'il soit au deuxième acte. Alors Wagner a négocié, et ben je vous le mets tout de suite après l'ouverture, et il écrivit donc l'ouverture, et tout de suite s'enchaîner au moment où il y a les danses un peu débridées, une bacchanale. Il avait introduit le ballet à ce moment-là. Mais ça a été terrible.
Ça
n'a pas suffi, ça a calmé personne. En plus, quand il a donné cet opéra, il était protégé par un peu l'intelligentsia allemande. Hein. C'était Pauline Metternich qui l'avait protégé. C'était très mal vu à Paris, hein, parce que déjà on pressentait, on n'était pas encore en 1870 la défaite de Sedan, mais on sentait que l'Allemagne, comment dirais-je, s'organisait. C'était assez mal vu. Donc Wagner est arrivé un peu à contre-courant des idées générales, et tous les critiques musicaux de l'époque l'ont assassiné, quoi. Donc ça a été un four. Alors quand il a donné Tannhauser à l'Opéra de Paris, les gens étaient arrivés avec des sifflets pour les chiens. Ça a été l'apocalypse. Hein. Alors les chanteurs n'étaient pas très entraînés à chanter Wagner, parce que ça demande énormément de souffle, énormément d'efforts, etc. Chahuter comme c'était pas possible, on a bientôt renoncé à présenter Tannhauser à Paris. Donc là, ça s'est passé donc en 1861.
Et pourtant, dans l'assistance des personnes.
Et pourtant, dans l'assistance, Baudelaire y était et Zola y était. Alors, Zola, c'est intéressant parce que il a écrit un bouquin qui s'appelle L'œuvre. L'œuvre, c'est l'histoire d'un peintre, un peintre raté. Et c'est curieux parce que Zola a été élevé en Aix-en-Provence. Dans le lycée où allait Zola, Zola était italien, maigre, chétif, et il était un petit peu chahuté, on le tournait en dérision, il subissait tous les colibés de tout le monde, et il était même battu, c'était difficile. Et il y a un grand, un jour, qui l'a protégé, Et ce grand qui l'a protégé, eh bien, il s'appelait Paul Cézanne. C'est le grand peintre qui, à mon avis, a inventé l'art moderne. Hein. Donc, ils sont restés très liés, très liés. Et puis, ils sont allés à Paris, ils se sont vus à Paris. Et quand Zola écrivit l'œuvre, elle jeta un froid parce que notre peintre s'est retrouvé dans l'entier, le peintre raté. Ils se sont quand même fâchés. Après, ils se sont réconciliés, mais c'était plus comme avant. Il y a eu quand même une rupture entre les deux hommes. Alors, j'ai retrouvé un petit texte de Zola. Alors, ça se passe dans un café, c'est dans l'œuvre. Et Zola a fait mettre son personnage, c'est Zola qui parle. Hein. Donc, son personnage est dans un café, un assommoir du 19e siècle. Et il va parler de la musique. Il n'y avait plus qu'un bec de gaz allumé au-dessus de sa tête, et le garçon derrière son dos attendait dans le vide noir et glacé de la salle. Sa voix avait pris un tremblement religieux. Il en arrivait à ses dévotions au tabernacle reculé au sein des saints. « Oh Schumann, le désespoir, la jouissance du désespoir. Oui, la fin de tout, le dernier chant d'une pureté triste planant sur les ruines du monde. Oh Wagner !» Le Dieu en qui s'incarnent des siècles de musique. Son œuvre est l'arche immense, tous les arts en un seul, l'humanité vraie, des personnages exprimant enfin, l'orchestre vivant à part la vie du drame, et quel massacre de conventions, des formules ineptes, quel affranchissement révolutionnaire dans l'infini. L'ouverture de Tannhauser, ah, c'est l'alléluia sublime du nouveau siècle. D'abord le chant des pèlerins, le motif religieux, calme, profond, à palpitations lentes, et puis les voix des sirènes qui l'étouffent. Pas à pas, les voluptés de Vénus, pleines d'énervantes délices, d'assoupissantes langueurs, de plus en plus hautes et impérieuses, désordonnées, et bientôt, le thème sacré qui revient, graduellement, comme une aspiration de l'espace, qui s'empare de tous les chants et les fonde en une harmonie suprême pour les emporter sur les ailes d'un hymne triomphal.
Tannhauser de Richard Wagner avec l'articulation de Émile Zola pour cette émission qui donne un certain fil conducteur. Émile Zola qui assistait lui-même à une représentation justement du Tannhauser de Richard Wagner après, bien après la première présentation à Paris qui fut copieusement sifflée. Oui. Là, c'était un petit peu plus calme, un peu plus détendu en 1895 avec ce Tannhauser à Paris qui aussi conjointement naître les Valkyries de Richard Wagner.
Voilà, c'était l'époque où il travaillait à la tétralogie, et c'était l'époque où Wagner créait Bayreuth, puisque Bayreuth, c'est son opéra, son bâtiment.
Et qui a été la grande référence de l'époque.
Voilà, tous les musiciens, les philosophes, les écrivains avaient rendez-vous à Bayreuth.
Alors Zola, qui est mélomane, certes, et puis qui a été, on peut le préciser, à l'instar de Baudelaire, un défenseur précoce de Richard Wagner.
De Richard Wagner, oui. D'ailleurs, quand j'ai préparé un peu l'émission, je me suis demandé si je la faisais avec Zola ou avec Baudelaire, parce que tous les deux ont écrit. Hein. Même Baudelaire a envoyé des courriers à Wagner. Hein. Les grandes têtes de l'époque avaient bien vu que l'œuvre de Zola, que l'œuvre de Wagner allait modifier la conception de la musique. C'était sûr.
Alors aussi cette émission, Michel, puisque outre le fait que Zola était un défenseur de Wagner, aussi un certain écho entre les œuvres de Émile Zola, son écriture, son côté dramaturgique, et puis aussi Richard Wagner avec des conceptions un peu identiques.
Voilà. Alors j'ai trouvé un texte que tout le monde pense qui a été inspiré de La mort d'Iseult. Qui est un grand opéra de Wagner aussi, et Zola s'en est, d'après tout le monde, tout le monde est unanime, s'est inspiré donc pour la mort de son personnage de cette musique de Wagner qui clôt cet opéra Tristan et Iseult. Alors c'est un texte qui se trouve dans la Faute de l'abbé Mouret, c'est toujours dans le cycle des Roucon-Macquart. Le personnage, Albine, vit au milieu de fleurs, de plantes, dans un immense jardin qui est le Paradoux, et elle va mourir. Et c'est amusant que Zola ait trouvé chez Wagner, dans La mort d'Iseult, l'inspiration de son ouvrage.
On vous écoute, une lecture.
D'abord, c'était un prélude gai, enfantin. Ses mains qui avaient tordu les verdures odorantes exhalaient l'âpreté des herbes foulées ou lui comptaient ses courses de gamin au milieu des sauvageries du Paradou. Ensuite, un chant de flûte se faisait entendre, de petites notes musquées qui s'égrenaient du tas de violettes posées sur la table, près du chevet. Et cette flûte, brodant sa mélodie sur la laine calme, l'accompagnement régulier des lys de la console, chantait les premiers charmes de son amour, le premier aveu, le premier baiser sous la futaie. Mais elle suffoquait davantage. La passion arrivait avec l'éclat brusque des œillets, à l'odeur poivrée dont la voix de cuivre dominait un moment toutes les autres. Elle croyait qu'elle allait agoniser dans la phrase maladive des soucis et des pavots qui lui rappelaient les tourments de ses désirs. Et brusquement, tout s'apaisait. Elle respirait plus librement. Elle glissait à une descente des quarantaines, se ralentissant, se noyant jusqu'à un cantique adorable des héliotropes dont les haleines de vanille disaient l'approche des noces. Les belles de nuit piquaient çà et là un tri discret. Puis il y eut un silence. Les roses languissamment firent leur entrée. Du plafond coulèrent des voix, un cœur lointain. C'était un assemblage large qu'elle écoute au début avec un léger frisson. Le cœur s'enfle. Elle fut bientôt toute vibrante des sonorités prodigieuses qui éclataient autour d'elle. Les noces étaient venues. Les fanfares des roses annonçaient l'instant redoutable. Elle, les mains de plus en plus serrées contre son cœur pâmé, mourante, haletée. Elle ouvrait la bouche, cherchant le baiser qui devait l'étouffer, quand les jacinthes et les tubéreuses fumèrent, l'enveloppèrent d'un dernier soupir si profond qu'il couvrit le cœur des roses. Albine était morte dans le hoquet suprême des fleurs.
Voilà une œuvre de Richard Wagner autour de la mort d'Isolde, enfin en allemand Isolde, on peut dire Iseut communément en français, Michel. Cela fait suite aussi à la lecture dont vous nous avez fait part autour de ce livre d'André Curiot, autour de Wagner et son romantisme.
Cet opéra de Wagner a été quand même très important pour toute la musique, hein, parce que la structure de l'œuvre, la structure orchestrale, ont amené tous les musiciens, même français, à repenser leur façon de voir la musique, hein, que ce soit Chabrier, que ce soit Vincent d'Indy, tous les musiciens ont été quand même bouleversés et se rendaient tous à Bayreuth. Bayreuth, tout le monde y allait, hein, c'était le lieu de la musique et c'est là qu'il se passait quelque chose.
Donc une référence qui a donné une certaine influence, on peut dire que ça comme ça, à la fin du 19e,
Wagner a profondément marqué la musique. Profondément par les histoires qu'il a mis en scène, par surtout cette orchestration, cet orchestre généreux, hein, cet orchestre très cuivré. Après, on n'a plus écrit la musique de la même façon. Hein. Le monde avait changé vraiment. Hein.
Alors, puisque vous évoquiez Émile Zola, c'est aussi la contribution de l'écrivain sur certaines pièces de Wagner.
Oui, alors là, pour finir, on va parler d'un autre écrivain qui a parlé aussi de Wagner, c'est Marcel Proust. Alors je pensais pas que Marcel Proust était passionné de Wagner, et puis toujours dans le livre qu'on a évoqué tout à l'heure, j'ai trouvé un petit texte qui est quand même intéressant. Hein. Alors voilà, je vous le lis. Hein. Proust offre cet exemple peut-être unique d'un écrivain qui a vécu comme l'on respire, dans un wagnérisme quotidien et familier. Un de ses amis a raconté comment, malgré l'asthme, il monta sur la plateforme de la grande tour du château de Courcy, pendant que Bertrand de Fénelon, pour l'encourager, lui chantait à mi-voix l'enchantement du Vendredi Saint. Il est de ceux qui pouvaient écrire avec naturel, parce que c'était la stricte vérité. Je respirais l'air de Combray de cette année-là, de ce jour-là, mêlé d'une odeur d'aubépine, agité par le vent du coin de la place, précurseur de la pluie, qui tour à tour faisait envoler le soleil, le laisser s'étendre sur le tapis de laine rouge de la sacristie et le revêtir d'une carnation brillante, presque rose, de géranium et de cette douceur, pour ainsi dire wagnérienne, dans l'allégresse qui conserve tant de noblesse à la festivité. Le côté de Guermantes.
Richard Wagner avec l'enchantement du Vendredi Saint, Parsifal.
Le Parsifal.
Le Parsifal.
Le dernier opéra de Wagner.
Voilà, un peu fleuve.
Un peu fleuve, un peu long, un peu lourd, mais enfin bon, Wagner, hein, on y va, on sommeille un petit peu, mais on est réveillé par un flot de musique, des cuivres, etc. On se dit c'est magnifique, voilà, c'est une religion, hein, Wagner.
Oui, tout à fait. Beaucoup de relief dans cette musique du romantisme, des choses beaucoup plus compactes, plus offensives, enfin ouais. Entre guillemets, voilà. C'est vraiment tout un monde que finalement. Émile Zola a aussi parcouru avec une certaine harmonie, hein,
bien
ce qui
sûr.
Fait un peu l'articulation de cette émission. Merci beaucoup, Michel Giardella,
voilà,
pour ce moment autour des œuvres de Richard Wagner et puis les lectures aussi associées qui conféraient toute une sphère musicale et historique du 19e siècle. On se retrouve prochainement dans un mois pour une prochaine thématique aussi.